Bonjour à tous, c'est Jean-Christophe Drouet. Avec RMC, notre volonté, notre envie est de rendre le golf populaire, accessible. C'est exactement la vision de nos partenaires, UGolf et Bluegreen, partager notre passion en cassant les codes, sans se prendre au sérieux, mais toujours, toujours vous aider à progresser. Grâce à eux, nous pouvons tous jouer au golf. C'est l'épisode 15.
Le Practice RMC, Jean-Christophe Drouet.
Salut à tous les amoureux de la petite balle blanche, très heureux de vous retrouver, non sans émotion, pour l'épisode 15 du Practice RMC, car c'est le dernier de la saison. Oui, je sais, devant votre poste de radio, avec votre téléphone, vous écoutez ce podcast et vous vous dites « Mais ce n'est pas possible, ça ne peut pas déjà être le dernier de la saison, si !» Mais rassurez-vous, nous allons nous projeter sur la saison 2024 et j'ai quelque chose à vous dire à la fin de cette émission. Au programme, à coup sûr, il y aura deux Français sur le PGA Tour en 2024. Faut-il avoir de grosses attentes pour nos tricolores ? Évidemment, nos spécialistes ne sont pas d'accord. Paul Barjon, qui vient de remporter son ticket d'entrée, sera notre invité exceptionnel. Le 19e trou de Simon Dutin, notre consultant RMC. Salut Simon.
Salut JC, salut tout le monde.
Que faisons-nous au 19e trou ?
Ah, on va revenir sur le dernier tour du Korn Ferry Championship. Tu sais, c'est le tournoi que Paul Barjon a remporté il n'y a pas longtemps. Bah, figure-toi que le 8 octobre dernier, pendant que Paul riait, Chad Tooten chialait.
Ouais, et tu vas nous dire pourquoi il pleurait. Et vous allez voir, c'est à pleurer de rire aussi, le pauvre. Le tips de Ramucho Artola, notre prof de golf. Salut Ramucho.
Bonjour à tous.
Oh, tu débutes la radio avec le micro, t'inquiète pas.
Ah,
ça va mon Ramucho ? Un petit coup de rap pour la 15e.
Là, tout allait bien.
Patron de l'enseignement du golf Bluegreen de Pessac, à chaque épisode, notre coach vous vient en aide et vous donne un cours particulier. Aujourd'hui, Ramucho, tiens, ça peut tous nous intéresser. Eve ne va pas se lever, mais veut des conseils pour passer des obstacles d'eau.
Ben, on va essayer de les dompter, ces fameux obstacles d'eau.
C'est dans la tête ou pas ? Avant tout.
Un petit peu aussi. Mais on peut être plus malin qu'eux.
On peut être plus malin, j'aime ça, tu vas tout nous dire. Avec nous également notre consultant Fabien Donoyan. Salut Fabien.
Salut JC, salut tout le monde.
Directeur général adjoint et directeur de l'académie UGolf et Bluegreen, Martin Coulon. Bonjour Martin.
Salut tout le monde, ça va ?
On va très bien.
Mais alors, je veux pas de blague sur le prénom Eve, qui est un très très beau prénom qui m'est très cher. Même si elle danse avec la vie, c'est un beau prénom.
Okay, tu vois, tu fais les vannes tout seul. Voilà. Ancien rédacteur en chef adjoint du journal du golf, merci une nouvelle fois d'être avec nous. Et puis notre invité aujourd'hui, il s'appelle Médéric Coquer. Salut Médéric.
Salut JC.
Responsable marketing et produit chez Callaway pour l'Europe du Sud. On est très heureux de te recevoir dans ce podcast RMC, car nous avons une grande annonce à faire à nos auditeurs. Ce sera un petit peu plus tard, je ménage un peu le suspense. Hein. Tu vois, ici, c'est comme Netflix. Voilà, il y a du suspense, il y a de l'engueulade, il y a un petit peu de rire. On va donc se régaler. Est-ce que tu es prêt à ferrailler avec la bande ?
Je suis prêt et un grand, grand merci pour votre accueil. Et je suis ravi d'être là aujourd'hui.
Je sais que tu nous écoutes. Tu vas pouvoir les affronter en chair et en nonos. N'hésite pas à leur rentrer dedans. C'est aussi le but de ce Practice RMC. En tout cas, très heureux de te recevoir, Médéric. Un magnifique cadeau également à vous faire gagner. On en parle un petit peu plus tard. Allez, tout de suite, les Bleus en force.
Mon compte va l'aider à arrêter cette balle plus vite, mais il faut qu'elle parte au millimètre, celle-ci, pour rester propre.
Allez, rentre ! Oh oui ! Oh oui, Paul Barjon !
Allez, non, pas encore.
Pas encore ! Victor Pérez ! Qui rentre les pattes pour birdie ! Il est dans une autre dimension, il est sur une autre planète !
Paul Barjon finds the bottom of the cup for Eagle. And he is your 2021 Huntsville Championship champion.
A par four is enough. Victor Perez from France is the first ever French champion on the old course at St Andrews. He's the Alpha Dunhill Lynx champion.
Le Practice RMC.
Victor Pérez, Paul Barjon, voici les deux Français assurés de jouer la saison prochaine sur le circuit numéro 1 américain, le célèbre PGA Tour. En attendant, peut-être un troisième tricolore, Romain Langasque, qui tente toujours de se qualifier. Romain Langasque, qui était dans ce podcast durant la Ryder Cup il y a trois semaines. C'est un autre Français qui a crevé l'écran, Mathieu Pavon, en remportant l'Open d'Espagne, son premier sacre sur le circuit européen, après 185 tentatives. Voici la question de ce 15e épisode. Ça fait peur, hein, Médéric ?
Très.
Faut-il avoir de grosses attentes pour nos Français ? Oui ou non ? Ramucho Artola.
Oh, oui, pourquoi pas. Oui.
Il n'y a pas de pourquoi pas dans cette émission.
Non, non, mais parce que je vais avoir, des
merci
scutes
Ramoukio,
derrière.
Merci Ramoukio, il était magique.
Je vais avoir des scutes derrière.
Oh, bah écoute, sur un malentendu. Ouais, non.
Ok, j'ai un oui. Martin Coulon.
Bah, tu vas avoir un gros non.
Fabien Deneuillant.
Un gros oui.
Simon Dutin.
Ce sera un non pour moi, Jean-Christophe.
J'ai deux noms, j'ai deux oui. Médéric Coquer.
Eh ben, je vais trancher. Je vais trancher et je pense oui également. J'y crois beaucoup.
Tu penses oui également. J'ai donc trois oui. J'ai donc deux noms. On va commencer avec Martin Coulon. Pourquoi non ?
Ah, pourquoi non ? Bah, tout simplement parce que tu as, même si c'est deux joueurs de grande qualité, Victor Pérez et Paul Barjon, c'est des joueurs qui, sur le PGA Tour, ne sont pas expérimentés. Clairement. Victor Pérez, c'est 31 tournois du PGA Tour en carrière, y compris les majeurs, les WGC, ce genre de trucs. Paul Barjon, c'est évidemment un peu plus de tournois, on va dire, réguliers de la saison régulière, du coup, du PGA Tour, puisqu'il a gagné sa carte en 2022. Lui, il en a 35. Donc moi, j'ai tendance à dire non, il ne faut pas avoir de grosses attentes, il ne faut pas leur mettre une pression de dingue, il ne faut pas leur dire « Allez les gars, c'est tout de suite la perf !» Moi, j'aurais tendance à dire « Laissons-les tranquillement s'installer sur ce circuit. » C'est un circuit qui n'est pas évident, c'est un circuit qui est hautement concurrentiel. Non, mais... Et on ne peut pas demander tout de suite à ces mecs-là, tout talentueux qu'ils soient et tout, déjà quelques perfs, ils en ont enfilé quelques-unes, mais de là à dire, les gars, tout
pourquoi
suite,
pas. Déjà, j'y suis. Mais si c'est ta question, faut-il avoir de grandes attentes ? C'est quoi ? On parle de garder sa carte pour la saison prochaine ? On parle de quoi ? De rincer tout le monde ? De quoi ? De gagner 3-4 tournois dans la saison ?
Mais je pense que ne faites pas les naïfs.
Ah bah
je
non.
Suis pas. Non, mais vous comprenez bien le sens de la question. Je parle pas d'aller claquer un majeur forcément, mais en tout cas de s'en approcher et de faire des top 10. C'est-à-dire que d'être présent, parce que Paul Barjon, on l'aura d'ailleurs, c'est une interview qui a été enregistrée il y a quelques jours. Paul Barjon sera dans ce podcast et je lui pose à un moment donné la question, lui dire. Est-ce que ça lui fait peur de refaire l'ascenseur ? C'est ça qu'on ne veut pas. De grosses attentes, c'est être là, installé sur le circuit.
Mais moi, ça, en fait, c'est toujours paradoxal dans vos trucs. Ouais. C'est-à-dire que
dans nos trucs,
on pleure. Bah, dans vos réponses, parce que ou en tout cas dans vos arguments. On a dit, mais tellement toute l'année dans nos podcasts, oui, ça serait quand même bien. Il faut arriver à jouer contre des joueurs plus forts. Il faut aller s'aguerrir.
On n'a pas dit qu'on n'était pas content qu'ils soient sur le PGA Tour.
Non, mais je veux dire, évidemment qu'on a des attentes. À un moment donné, c'est des sportifs de haut niveau. Ils représentent notre pays. Enfin, ils représentent eux-mêmes. Ils représentent notre pays. Et nous, avec Ramoucho, à notre petit ou Médéric, c'est ultra important pour notre marché qu'on ait des joueurs et des joueuses qui soient susceptibles d'aller tutoyer le plus haut niveau mondial. Maintenant, un mec comme Paul Barjon. Alors, je le connais bien, évidemment, puisqu'en plus, on fait partie de ses sponsors depuis maintenant 3 ans. Je crois que vous ne vous rendez pas compte du niveau qu'a ce garçon. Je termine, laisse-moi terminer. Est-ce que tu ne sais pas où je veux en venir ? Le niveau qu'a ce garçon. Ensuite, le mec était aux abois cette année. Mais quand je dis aux abois, c'est aux abois. Il gagne, mais même lui, à mon avis, il ne s'y attendait pas. Il revient dans le... Il était 23e. Puisqu'on sait qu'on prend les 30 meilleurs joueurs pour aller sur le PGA Tour. De nouveau, des contre-perfs, il n'arrive pas à enchaîner. Dos au mur, il arrive sans aucune attente, à part celle de passer 4 bons jours et de jouer plutôt bien.
Il était dans les 40e.
Et il commence par un tour pourri avec un triple, un machin, et le mec derrière, le talent, t'appelles ça comme tu veux, mais moi je peux vous assurer qu'aujourd'hui, Paul Barjon, il a un niveau de golf... Mais le même que la plupart ou la grande majorité des joueurs sur le PGA Tour, parce qu'il vient de le prouver. Et puisque vous aimez bien les stats, vous aimez bien aller gratter des infos et des machins, tous ceux qui ont gagné le Tour Championship, ben le Korn Ferry Championship, ils ont non seulement gardé leur carte, mais plusieurs d'entre eux ont l'année suivante gagné sur le PGA Tour.
Ok, bah c'est tout le mal qu'on lui souhaite. On va faire circuler la balle. Ramon Chortola.
On est sur Paul Barjon. Il était venu donc il fallait sur son dernier tournoi du Korn Ferry qu'il fasse minimum top 5 et à côté de ça il plante le tournoi donc c'est un mec qui est tout à fait taillé pour le PGA Tour parce que quand il a des périodes de forme il les exploite à fond et il peut te claquer un moins 8 un moins 7 et faire un des top 10 qu'il en a fait déjà il y a 2 ans donc il est tout à fait taillé pour le PGA Tour avec peut-être des semaines on et off mais vraiment il y a le profil type d'ailleurs le Korn Ferry ne ment pas. Hein.
D'ailleurs, restez bien avec nous, il va parler de cette irrégularité qui le touche tant et qui l'a fait redescendre sur le Korn Ferry Tour il y a deux ans. On fait circuler encore la balle et ne vous inquiétez pas, je vais revenir vous voir, notamment Martin Coulon qui me fait de grands gestes.
J'arrive,
Martin. Médéric Coquer, sur cette question, faut-il avoir de grosses attentes pour nos Français?
Eh ben moi, en tout cas, j'en ai de grosses sur Paul Barjon. Du fait qu'il en fait, il connaît cette ambiance américaine, souvent ce qu'a pêché. On a entendu Colsart à l'époque, quand on a longtemps parlé en disant c'est compliqué, c'est une autre manière de vivre, faut être un peu plus individualiste que ce qu'on peut trouver sur l'European Tour, sur le DP World Tour aujourd'hui. Je crois qu'il a clairement le charisme pour le faire. Il sait gagner sur le territoire américain et il n'y a aucune raison que demain il ne puisse pas. Peut-être pas terminer top 30 sur le PGA Tour, mais de faire quelque chose et de sentir qu'il peut être aux avant-postes et nous montrer qu'on a un joueur français qui peut, de l'autre côté de l'Atlantique, aller faire quelque chose.
Mais justement, vous me voyez venir, hein, quand on parle de grosses attentes, j'aimerais savoir quelles sont, vous, vos propres...
Ah bah... Non, mais juste...
Après, c'est mon Dutin.
Oui, pardon, et Martin qui voulait réagir.
T'inquiète, je suis toujours colère. Voilà.
Non, mais il ne faut pas oublier que l'année, en 2022, où Paul joue le PGA Tour, il est en tête. Il est en tête, donc il prend le départ du dernier tour en tête du tournoi. Bon, derrière, peu importe. Mais avec une chance de gagner. Donc, comme le dit Médéric...
C'était Hawaï, non, c'est ça?
Comment?
C'était Hawaï, non?
Non, c'était pas Hawaï, j'ai perdu le... Désolé. Mais évidemment qu'il a le niveau, il a gagné trois fois sur les circuits. Pour vous donner quand même une comparaison, le Korn Ferry Tour, aujourd'hui, c'est plus fort que l'European Tour, hein.
Tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que
on le voit
nous parce qu'on est européens et que c'est peut-être plus facile de suivre ce qui se passe en Europe. Mais le niveau du Korn Ferry, on a encore des exemples. Adrien Dumont-Chassard chez les Belges, ce qu'il vient de faire cette année, c'est quand même colossal. Bah clairement, ça vaut quelque chose et je pense que ça fait partie de ces joueurs comme Paul de demain pouvoir faire une grosse saison sur le PGA Tour.
Bah, c'est l'antichambre du PGA Tour et on sait à quel point les places sont chères et on sait à quel point les joueurs du Korn Ferry Tour ont les crocs pour justement remonter. Donc, c'est dire aussi la portée de la performance. Là, je suis bien d'accord avec vous. Simon Dutin.
Bon, non, encore une fois, tu es un petit malin parce que ton intitulé de débat, il permet effectivement de prendre l'une ou l'autre des positions, des grandes attentes. C'est quoi, encore une fois, je vous retourne la question. On se fait engueuler par Fabien quand on dit que l'Europe va gagner la Ryder Cup. On se fait engueuler par Fabien quand on dit qu'il n'y aura pas de joueurs français dans la Team Europe en Ryder Cup. Moi, je veux bien me faire engueuler quand je te dis qu'on va rincer personne sur le PGA Tour, que peut-être on va accrocher des top 5, des top 10. Si la question c'est de savoir si le golf français est en progrès, je te réponds oui. Si je me réjouis qu'on ait des joueurs français sur le PGA Tour, je te réponds oui. Est-ce que j'espère qu'ils vont bien figurer sur le PGA Tour? Je te réponds oui. Ouais, c'est incroyable. Est-ce que tu me demandes de te dire que chaque semaine, Barjon ou Perez, ils vont rincer à la fois tous les Américains plus tous les Européens qui sont meilleurs qu'eux, qui sont déjà habitués à gagner et à ce lifestyle? Voilà. En revanche, ce qui donne un petit peu d'espoir, c'est que, et moi il y a un truc qui me désespérait, c'est que quand les mecs avaient l'occasion d'y aller, ils n'y allaient pas. Il n'y a que Levé qui y est allé, je crois, début des années 2004, je crois. Ouais. Bon, ça n'a pas été inoubliable, mais les mecs, je vais peut-être
dire une bêtise, mais carte, quand même.
Pourquoi les Avray, les Jacquelin, les tout ça, ils n'y sont pas allés? Moi, je ne comprenais pas pourquoi ils n'allaient pas jouer en NBA, les mecs, tu vois, l'équivalent pour le golf.
Donc, et
moi,
ce
que j'aime, c'est que effectivement, tu as des profils maintenant dans le golf français, tu vois, les Perez, Barjon, bon, Rosner qui ne sera pas l'an prochain, c'est des mecs qui ont été en université américaine, ils ont bouffé du golf américain pendant des années. Donc oui, j'ai envie de... Je vais allumer mon petit cierge. Mais voir un Français dominer, enfin être parmi les joueurs qui comptent l'an prochain sur le PGA Tour, malheureusement, je demande à voir, je demande qu'à être convaincu.
Tu vois, ta question, JC, me fait penser à la question, pourquoi est-ce qu'un Français ne gagne pas en majeur? Bah, tout simplement parce qu'ils n'en jouent pas assez. C'est toujours le même problème. Et c'est ça qu'on est en train de résoudre avec ce que sont en train de faire Victor Perez et Paul Barjon. Et on espère aussi, évidemment, plus de Français sur le PGA Tour. Il faut jouer. Et c'est en ça où je vous donnais tout à l'heure cette stat. Je veux dire, tu as joué 35 tournois sur le PGA Tour. Évidemment, si tu t'appelles Ludwig Haberg et que tu débarques comme ça avec une espèce de fraîcheur et que tu as l'habitude de jouer à ce haut niveau, je dis pas que Paul Barjon ou que Victor Perez n'ont pas le niveau intrinsèque pour être performants sur le PGA Tour. Loin de moi cette idée-là. Par contre, encore une fois, tu l'as très bien dit, Médéric, tout à l'heure, le PGA Tour, c'est un tour très spécifique. Évidemment, un mec comme Paul Barjon, il est beaucoup plus habitué puisque lui... J'ai presque envie de dire que c'est un Américain d'adoption. Ouais. Il est marié à une Américaine, il vit là-bas, il a fait toutes ses études là-bas. Enfin, ça fait des années qu'il est intégré à cette culture-là et qu'il a, c'est le plus le plus français des Américains. Je mets de côté un Martin Trainer qui est le plus américain des Français et qui est le joueur du PGA Tour, le joueur français pour le coup, qui a le plus de tournois du PGA Tour sous la ceinture. Il en a 128, tu vois. Mais à côté de ça, un mec comme Thomas Levay, il avait 97 tournois. Un mec comme Jean Vandeveil, il en avait 49. Donc tu peux pas demander à des gars qui ont pas beaucoup de tournois, pas beaucoup d'expérience entre guillemets au sens large du terme, mais pas de porte ouverte sur ce circuit, de tout de suite être performant.
Donc tu réponds oui aux attentes avec le résumé que tu viens de faire.
Les espoirs, des rêves.
Mais barjon avec les éléments que
je rejoins totalement
des attentes.
Bien sûr, je rejoins totalement Simon là-dessus, mais de là à les placer comme l'intitulé de la question le fait penser de dire
ils vont
sur le PGA Tour, ils vont s'installer, ça va être des calors du truc. Ouais, moi je l'ai compris comme ça.
Ça fait 20 minutes qu'on fait le débat et je sens qu'en fait vous êtes en train de faire le débat sur ma propre question. Et ça, c'est pas très sport de votre part, mais il n'y a aucun problème, je sais me défendre. Moi aussi, je peux entrer dans l'arène. Faut-il avoir de grosses attentes ? Pardon, mais quand on débute la saison, je vais prendre d'autres sports, en foot avec le Paris Saint-Germain, quand on parle de grosses attentes, bah c'est d'aller loin dans une compétition. Quand on parle de grosses attentes pour nous tricolores, quand on va au JO, c'est d'aller faire une médaille. En gros, vous comprenez bien, faut-il avoir de grosses attentes ? C'est pas jouer les figurants, c'est de jouer quelques tournois pour la gagne. On va pas leur demander d'en gagner 5 tournois par saison. Évidemment que non.
Mais la question était très claire.
Ce ne serait pas raisonnable. Mais est-ce que vous y croyez ? Accrocher un tournoi, peut-être pas un majeur. Évidemment, on va peut-être pas aller jusque-là. Mais déjà un tournoi, est-ce que ça vous y croyez ?
Clairement, oui. Vous êtes tombé dessus. Pourquoi pas ? Parce que ces joueurs-là vont avoir une catégorie qui leur permet de jouer 25-30 tournois. Donc, ils vont choper le rythme du PGA Tour. Ils vont pas être inquiets s'ils ratent un ou deux cuts parce qu'ils ont une palanquée de tournois qui arrive derrière. Donc, c'est ça avant tout qu'il faut essayer à voir. Donc, du coup, tu as moins de tension, tu es moins inquiet. Donc, tu développes ton jeu, etc. Et si ça tombe bien, un tournoi peut arriver dans ton escarcelle. Mais c'est ça. Donc, et si on peut avoir, par rapport aux attentes, si on peut avoir 3-4 joueurs réguliers, entre guillemets, sur le tour américain, mais ça va évidemment tomber. Et d'un coup, évidemment, les attentes seront supérieures. Mais déjà, chopons 2-3 joueurs qui réussissent à garder leur carte, à avoir du bagage, voilà. À se faire le cuir, à avoir de la confiance. Et les tournois vont ensuite tomber.
Non, mais c'est quand même la première fois qu'on a deux joueurs qui ont carte du PGA Tour avec des règles normales. Il faut pas oublier que les deux précédents l'avaient gagné lié à leur participation.
Alors, il ne faut pas oublier non plus qu'ils ne peuvent pas participer à tous les tournois.
Oui, mais parce que le format a changé. Mais ce que j'aimerais aussi dire, là, au moment où d'autres Français peuvent intégrer, la saison n'est pas terminée, il reste des tournois importants avec 3 Français qui sont intrinsèquement capables, alors avec une grosse perf, d'aller et de rejoindre Victor et Paul. Donc, c'est la première fois qu'on a un vivier. Et si, alors là, pour les plus vieux dont je fais partie, vous croyez quoi ? Il y a quelques années, voire décennies, le circuit européen, on a attendu longtemps avant d'avoir une victoire. Et puis, quand un joueur a gagné, alors je parle de l'ère moderne, parce que Garayal, on a mis du temps. Et puis, il y a eu une victoire, il y a eu deux joueurs, il y a eu 3 joueurs. Et 20 ans après, il y en a 20. Donc, ce sont peut-être des pionniers, ou en tout cas, Jean et Thomas l'ont été, mais d'une certaine façon. Paul et Victor, et j'espère encore un ou deux, ce sont quelque part des pionniers. Et je mettrai juste un bémol, et on l'a dit, c'est que Paul est américain aujourd'hui. Paul a eu la carte du PGA Tour et Paul a gagné 3 fois sur le camp de Ferry. Et je peux vous assurer, le camp de Ferry, pour gagner 3 fois... Il ne faut pas jouer comme
un pimpin.
D'accord, mais comme Simon. Je te connais, tu allais dire comme ma grand-mère. Est-ce que tu allais dire comme ma grand-mère?
Je te connais. Non, il avait vraiment envie de me mettre un pont.
Simon Dutin.
On adore. Il y a plein, évidemment, de choses positives. Enfin, le golf français va mieux qu'effectivement à une certaine époque. On a plus de 40 victoires, je crois, sur le Tour européen. En tournoi depuis le début des années 2000. C'est vrai que on a toujours tendance à en vouloir plus. Retournons-nous derrière, tu vois, jetons un coup d'œil derrière l'épaule pour voir d'où on part. Effectivement, Fabien, là, pour le coup, marque un point. Oui, ça va mieux. Oui, tu te souviens, on avait eu Chris Como en interview dans l'émission.
L'ancien coach de Tiger.
On lui avait demandé, je ne sais pas si on avait gardé ça au montage, mais en tout cas, dans l'interview que j'avais faite avec lui, on lui demandait qu'est-ce qui manque au golf français. Les mecs, ils ont le niveau intrinsèque. Chris Comeau, il nous a répondu, c'est statistique, quoi. Ça finira par tomber. Ils vont finir par gagner un tournoi. Voilà, c'est juste une question de champ de joueurs. Et encore une fois, regardez le line-up de n'importe quel tournoi du PGA Tour. On a suffisamment parlé avant la Ryder Cup, justement, du nombre de joueurs européens. Ils étaient 11 sur 12 à jouer le PGA Tour. Avant, ce n'était pas exactement pareil. Donc, pour rejoindre Martin, si tu veux gagner sur le PGA Tour, déjà, il faut jouer les tournois, effectivement. Le niveau intrinsèque, ils l'ont. Est-ce qu'ils vont en gagner un cette saison ? Pourquoi pas ? Mais encore une fois, le nombre de mecs que tu dois battre chaque semaine que tu dois laisser derrière toi, ça te laisse, en termes statistiques, des chances de ne pas gagner aussi, même si tu es très bon.
Pour le coup, c'est le golf, c'est comme le tennis. Hein. Tous les week-ends, il n'y en a qu'un qui gagne.
Si les deux, ou trois, espérons-le, joueurs français du PGA Tour l'an prochain, conservent leurs cartes déjà...
Ah, ce sera déjà une victoire pour toi.
Tu
serais déjà ravi.
Bah, bien sûr.
Okay,
je trouverais ça déjà très bien.
Sincèrement, aujourd'hui, on peut voir plus loin.
Il y a un truc qui est hyper important aussi à bien prendre en compte dans le fait que ces deux joueurs-là, on parle de Victor Pérez et de Paul Barjon, ces deux joueurs qui vont, ou qui sont déjà installés aux États-Unis, et qui vont s'installer aux États-Unis. Moi, j'ai eu l'agent de Victor Pérez hier au téléphone, Joe, qui m'a confirmé que Victor allait déménager de l'Écosse pour aller s'installer aux Bahamas, sur le golfe d'Albany, là où va se dérouler dans quelques semaines, ou s'est déroulé, je ne sais plus, le tournoi de Tiger Woods. Et ça en dit long aussi sur l'engagement de Victor Pérez sur le PGA Tour. Ça veut dire que ce bonhomme-là, il ne met pas la moitié de ses billes d'un côté de l'Atlantique et les moitiés de l'autre, il va complètement sur le PGA Tour. Et ça, c'est hyper important. Et en ça... Je peux rejoindre votre folie positive du début d'émission que je partage quelque part en tant que fan de golf, tu vois. Moi, j'essaie toujours d'apporter un petit peu de raison là-dedans, mais c'est hyper intéressant de se dire que il va jusqu'au bout de la démarche, tu vois. Il a la carte du PGA Tour, donc il va s'installer là-bas et pour avoir des meilleures qualités d'entraînement, pour arriver frais sur les tournois, pour être sur place et donc quelque part, bah,
non mais il se donne tous les moyens,
bien sûr,
pour aller à son objectif.
Mais c'est fondamental. Tout à l'heure, on se demandait pourquoi il y a pas mal de Français qui auraient pu jouer sur le PGA Tour. Je pense à Grégory Evray après sa deuxième place à l'US Open 2010. Il n'a pas voulu aller là-bas parce que sa famille était en Europe et que ce n'était pas le moment pour lui. Et que voilà, il y avait un truc comme ça qui faisait que ça retenait les joueurs en Europe parce qu'ils avaient aussi leur confort de vie et que c'était comme ça. Là, je trouve hyper intéressant que Victor Pérez choisisse de dire « Ok, je vais vraiment mettre toutes mes billes pour performer aux États-Unis. »
Ok, vous êtes tous d'accord, en tout cas pour dire qu'il se passe quelque chose. On ne sait pas si ça va le faire, mais il se passe quelque chose. Médéric Coquer.
Non, moi je suis d'accord avec Martin sur le fait qu'on sent une vraie envie. En fait, il y a une vraie différence. On sent qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se passe. Et plus ils vont être à jouer là-bas, plus il y aura ce. Je suis pas tout seul. Et c'est vrai que cette solitude, parfois elle fait peur. C'est ok, je vais là-bas, mais j'aime bien avoir mon petit confort à la maison. Et là, on parle des gars, mais il y a chez les filles. Et ce qui s'est passé avec Boutier, c'est aussi ça. C'est de savoir à un moment, il faut se donner à fond, il faut y aller. Il ne faut pas faire les choses
à moitié.
Exactement. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, aussi bien avec les joueurs qui sont en place. Et Barjon, c'est l'exemple parfait. C'est qu'il est sur place, il sait comment... Il est à l'aise, il est chez lui. Et je pense que la suite aussi, on le sent sur les futurs très bons joueurs de demain. On sent qu'il y a une formation globale qui s'habitue petit à petit à se dire... Notre avenir, c'est PGA Tour et peut-être moins DP World Tour.
Et Paul Barjon, vous allez l'écouter dans ce podcast et dans quelques instants.
Oui, désolé de monopoliser la parole. Je pense aussi au fait que, mine de rien, Pérez et Barjon, c'est aussi deux joueurs qui sont issus de toute cette volonté de formation d'aller mettre des joueurs en université américaine. Et ça, c'est pas anodin non plus. Qu'ils soient habitués à jouer ces parcours-là, qu'ils soient habitués à cette culture-là, qu'ils soient habitués à ce côté
individuel. Aussi, il y a le petit géant.
Il y en a plein qui sont là-dedans. Et donc, c'est on plante des petites graines qui sont en train de grandir petit à petit. Et voilà, et on en voit deux belles fleurs. De belles plantes, de beaux arbres, tu vois ça comme tu veux, mais qui sont en train d'éclore au plus haut niveau. Évidemment, on souhaite que ça se passe bien, mais c'est intéressant de voir qu'ils vont jusqu'au bout de la démarche. Voilà, c'est important ça aussi.
Alors, en début de podcast, vous l'avez bien compris, chers auditeurs, la Dream Team n'était pas du tout d'accord avec ma question, alors je vais poser une nouvelle question.
Mulligan.
Donnez-moi une attente précise pour nos deux Français. Une attente précise. Pas qu'ils jouent bien, ce serait pas mal. Une attente précise. Un top 10 une fois, par exemple, juste sur un tournoi, ça peut être une attente. Fabien Donoyan.
Une victoire et les finales à FedEx en fin de saison.
Simon Dutin.
Alors, je te donne la version très chère. Hein. Je ne sais pas si on a les moyens. Playoff FedEx, là, forcément, fantastique. Sinon, plus raisonnable, qui joue chacun, allez, trois fois dans les trois dernières parties, tu vois, le dimanche d'un gros tournoi. Je serais déjà content pour aller voir la télé.
Martin Coulon.
Ouais, si tu es qualifié pour les playoffs de la FedEx, c'est que tu as fait une saison très régulière. Ouais. Donc, ouais, c'est clairement ça l'objectif.
Donc, je vais pas être original, c'est un qualifié pour la FedEx. Alors ça, c'est une saison réussie, ça c'est clair.
Médéric Coquer.
Déjà une victoire, pas forcément sur un énorme tournoi, mais déjà d'enclencher le truc et de se dire ok, demain on est capable de gagner et ça pourra motiver que l'autre qui n'aura pas gagné. Donc une victoire sur le PGA Tour.
Jean-Christophe Drouet. Oui, c'est moi. Je vais répondre aussi à cette question. Je vais aller plus loin que vous. Titiller de très près un majeur, un British, un US Open. Vraiment essayer d'être dans les dernières parties du dimanche. Ça, c'est mon vœu, c'est mon attente pour 2024.
Attends, Fabien, il se marre, on se regarde. Il nous a pas, Jean-Christophe Drouet, il nous a pas dit il n'y a pas longtemps, je sens que le majeur pour un Français, là, ça va tomber.
Non oui. Ah, j'avais peut-être un an de...
On était en route vers Édimbourg, ouais. Exactement. Ouais. On allait jouer à Saint-Andrews et je vous ai dit ça parce que j'ai senti, je me suis peut-être un peu emballé, mais j'ai senti le golf.
C'est que Drouet, il pue le golf. Hein, méfions-nous de ses pronos quand même. Hein.
Allez, c'était il y a quelques jours, j'ai rencontré Paul Barjon et voici son interview. Paul Barjon qui va donc disputer la saison prochaine le PGA Tour.
Le Practice RMC.
Bonjour Paul.
Bonjour à tous.
Très heureux de te recevoir sur RMC. Félicitations car tu as gagné le droit de revenir sur le PGA Tour en 2024 en remportant le Korn Ferry Tour Championship. Est-ce qu'on peut parler de plus beau moment de ta carrière ?
Ouais, c'est un des plus beaux moments, effectivement. On se rappelle toujours un peu de la première victoire qu'on a en tant que pro, mais celle-là, effectivement, est très belle pour pouvoir remonter sur le PGA Tour.
Vous êtes deux Français qualifiés pour l'instant sur le PGA Tour l'année prochaine. Il y a toi, évidemment, et Victor Pérez. Notre débat dans le Practice RMC, c'est de savoir s'il faut avoir de grosses attentes pour nos Français. Tu répondrais quoi ?
J'espère, oui, qu'on va pouvoir... voulait compléter ses attentes et pouvoir performer au mieux possible.
Tu as déclaré d'ailleurs il y a quelques jours, l'objectif c'est de gagner des tournois, de gagner des majeurs. Tu te sens prêt aujourd'hui pour ça ?
Je pense que c'est un peu un apprentissage. Je pense que la première étape c'est de gagner des tournois du PGA Tour et puis ce qui nous fait rentrer dans les majeurs et après gagner des majeurs. Donc je dirais que gagner des majeurs c'est l'objectif un peu en haut de la pyramide quoi.
Gagner un majeur, justement, tu le sais mieux que quiconque, ce n'est jamais arrivé pour un Français. Est-ce que c'est une obsession pour toi ? Ça l'est un peu pour nous, je ne le cache pas, mais est-ce que ça l'est pour toi ?
Ouais, c'est un peu l'objectif ultime, j'ai l'impression, de tout joueur de vraiment de haut niveau. Donc pour moi, ouais, ce serait vraiment le plus beau tournoi, un des quatre, évidemment, à gagner, ce serait un peu le summum, quoi.
Tu as disputé d'ailleurs trois majeurs dans ta carrière, trois fois l'US Open sans passer le cut. Ça t'a nourri comme expérience ? Est-ce que tu peux nous en parler aujourd'hui avec le recul ?
Oui, effectivement, c'est des expériences qui étaient incroyables. Et finalement, j'ai pas forcément bien joué dans ces tournois-là, mais c'est une expérience sur laquelle j'ai beaucoup appris. Et puis ça, voilà, c'est vrai que c'est une atmosphère qui est très différente des tournois réguliers. Évidemment, les champs de joueurs sont les meilleurs de l'année, donc c'est quelque chose. Voilà, on a vraiment envie de jouer les quatre tous les ans et de pouvoir avoir quatre chances de performer ou de gagner tous les ans, quoi.
Ton axe de progression, justement, pour la saison prochaine, j'imagine que tu le travailles déjà, ou en tout cas que tu vas le travailler. C'est quoi le principal axe pour toi ? C'est la régularité ?
Ouais, la régularité, et puis un peu. Le petit jeu pour être un peu plus efficace dans les mauvaises journées, pouvoir faire un peu plus d'approche pote et de mettre plus de potes en général. Après, bon, c'est un peu banal. Évidemment, tout le monde essaie de mettre plus de potes, mais ça va être voilà, un axe de travail sur ça pendant la trêve hivernale.
Être bon sur quatre tours, c'est ça le plus difficile à travailler, essayer de performer sur quatre jours, c'est ça qui est difficile pour ton métier ?
Ouais, c'est surtout on a toujours des journées qui sont un peu moins bonnes que d'autres. Ce qu'il faut essayer, c'est de c'est de pas trop déborder et pas de se mettre en position de ne plus pouvoir gagner le tournoi. Donc on va avoir des mauvaises journées. Bon, c'est très rare qu'il n'y en ait aucune mauvaise pendant 4 jours, mais on a toujours une où on tape un peu moins bien, où les potes ne rentrent pas, et c'est là qu'il faut essayer de sauver un peu les meubles, quoi.
On parle souvent d'approche mentale, surtout dans ce sport. Est-ce que tu le travailles ? Enfin, je sais que tu le travailles déjà, mais est-ce que tu vas mettre encore plus l'accent dessus ?
Ouais, j'ai l'impression que l'axe mental, il est toujours important, et j'ai l'impression qu'on sait, on s'en éloigne un peu quand ça va bien et on y revient un peu quand ça va mal. Donc moi, voilà, on va continuer le travail qu'on fait et pas lâcher, parce que c'est quelque chose que, évidemment, dans le confort, on a tendance un peu à s'y éloigner en disant que tout va bien, et puis ça se dégrade au fur et à mesure. Donc on continue à bosser durement sur ça.
Alors, il y a 2 ans, tu étais sur le PGA Tour, déjà, avant de redescendre sur le camp de ferry, l'échelon inférieur. Pourquoi ça n'a pas marché à ce moment-là ? Est-ce que tu as réussi à poser des mots ?
Oui, d'arriver sans expérience, évidemment. J'ai un peu essayé de faire trop bien. Et puis aussi, voilà, une partie où il y avait des parties du jeu qui étaient un peu en manque. Donc voilà, c'est un peu une combinaison de choses, et puis qui a fait que, voilà, à la fin, je suis reparti sur le camp de ferry. Donc il y a quelques ajustements que je vais faire et que j'ai déjà fait cette année pour pouvoir être, comme je le dis encore, un peu plus régulier et pouvoir rester et être compétitif sur le PGA Tour.
Refaire l'ascenseur, justement, c'est dans ta tête, ça ? Ça te fait peur ou non ? Il ne faut surtout pas y penser à l'heure d'accomplir cette saison 2024.
Non, ce n'est pas quelque chose qui me fait peur, évidemment. On n'a pas envie de redescendre sur le Korn Ferry. Mais bon, voilà, après, c'est la vie. Là, on a une saison pleine devant nous, donc c'est un peu sur ça qu'on va se focaliser et essayer de mettre les choses en place pour pouvoir être le plus régulier et compétitif tout au long de l'année. On verra comment ça se négocie. Si, voilà, encore une fois, si je fais le boulot et que je joue bien, je garderai ma carte.
Donc, justement,
je focalise sur ça.
Une intersaison pour toi, pour un golfeur professionnel qui va aller sur le PGA Tour, ça se passe comment ? Il y a beaucoup de vacances, il y a un tout petit peu de vacances, beaucoup de travail. C'est quoi la bonne dose à avoir ?
Ouais, il y a un travail physique qui moi, c'est quelque chose qui me plaît, donc qui va être pendant toute la trêve hivernale qui a commencé dès mardi. Après, golfiquement, il va y avoir une semaine, cette semaine, c'est une semaine où les clubs restent dans le garage. Et puis on va reprendre doucement en parlant avec mon coach, en voyant qu'est-ce qu'il faut travailler. Et puis on va essayer d'être efficace. Pour arriver à un moment être en haut, quoi, être en forme pour arriver en janvier et être performant dès le premier tournoi, quoi.
Je me suis toujours posé la question, tu es un golfeur professionnel, on le rappelle, tu vas jouer sur le PGA Tour en 2024, ça te plaît ? Tu arrives à faire des parties comme ça avec les copains ou non, quand on joue, c'est uniquement pour bosser ?
Non, j'ai l'impression que voilà, j'arrive à faire la part des choses plutôt assez correctement. Moi, je suis assez, on va dire, individuel. J'aime bien faire mon entraînement tout seul avec personne qui vient me déranger. Et puis après, où je me fais des parties où je joue tout seul avec des parcours à thème ou des choses dans ce genre. Ou alors, je joue des parties compétitives avec d'autres pros. Ou alors, ça m'arrive de jouer avec des amis du club où on s'amuse bien. Mais il y a toujours un aspect assez professionnel sur ça où on essaye de jouer le mieux possible et de faire des routines complètes et tout ça. Il y a rarement de parties où on joue juste pour jouer, quoi.
Combien de tournois, justement, tu vas faire là, sur le PGA Tour en 2024 ? Est-ce que tu connais un petit peu ton calendrier ?
Non, je regarde un peu le calendrier. Je ne sais pas exactement combien de tournois je vais pouvoir avoir accès, mais je pense que je vais essayer d'en jouer un maximum pour pouvoir marquer un maximum de points. En étant dans cette catégorie de jeux-là, on n'a pas accès aux très gros tournois, donc on va un peu voir comment ça se déroule.
Paul, c'est quoi ton rêve absolu? C'est vivre Augusta, c'est jouer la Ryder Cup? C'est quoi dans ta tête?
Ouais, effectivement, quand on voit une Ryder Cup comme celle à Rome, ça donne vraiment envie. Évidemment, gagner le Masters, ça donne aussi envie. Il y a beaucoup de rêves qui sont tous plus ou moins équivalents, quoi.
Bah, si tu dois choisir, admettons, tu es obligé de choisir entre Augusta et gagner la Ryder Cup, tu prends quoi? Augusta, non?
Augusta.
Ouais. Ouais. Je comprends. On te souhaite quoi, Paul, pour 2024?
Plusieurs victoires sur le PGA Tour, ce serait l'objectif ultime.
Merci beaucoup à Paul Barjon, que l'on retrouvera un petit peu plus tard dans ce podcast, car il s'est prêté au jeu impitoyable du Clubhouse. Ce sera dans quelques minutes. Allez, on passe à l'édito de Simon Dutin.
Le Practice RMC.
Depuis combien de temps jouez-vous au golf?
Tom Tom, ça fait vraiment depuis des années.
Et sur un parcours comme ça, depuis quand?
J'ai 10 minutes.
Le 19e trou.
Et Simon, tu reviens aujourd'hui sur la terrible désillusion vécue par un joueur. Paul Barjon était aux anges, mais lui, ça s'est pas très bien passé.
Et pour cause, Chad Tuten, l'Américain, a évolué avec le Français sur le Korn Ferry Tour, rêvait lui aussi de décrocher sa carte pour le PGA la saison prochaine. C'est là que leurs routes se séparent, puisque le 8 octobre dernier, lors du dernier tour du Korn Ferry Championship, dernier tournoi de la saison, pendant que Paul riait, Chad a chialé. On est à Newburgh, dans l'état de l'Indiana, Victoria National Golf Club, un par 72. Et en ce dimanche après-midi, Chad Tuten pense bien en avoir fini avec les paysans de la seconde division. Il a en effet gagné le droit d'évoluer l'an prochain à l'étage supérieur, le prestigieux PGA Tour. Il a pour cela rendu une carte de 74, deux coups au-dessus du par.
Ce qui est bien, mais pas top.
Suffisant, en tout cas, pour finir dans les 30 premiers au classement de la saison. 30e sur 30, d'ailleurs.
Ouais.
On imagine aisément que Chad a déjà écrit à ses parents, sa famille, ses amis pour partager son soulagement et qu'il pense déjà à la boîte intersidérale qu'il va se mettre pour fêter ça. Gros déconneur le Tchad, hein. sauf que, la grosse mine, le barbecue et la voisine devront finalement patienter, au moins jusqu'à l'année prochaine. Chad Tuten ne jouera pas sur le PGA Tour l'an prochain.
What the fuck ?
On a beau être natif d'Augusta, on n'est pas forcément un master de l'arbitrage. Alors, j'en ai rajouté pour me faire plaisir, Chad va apprendre qu'il est marron avant d'avoir signé sa carte de score, évidemment, dans la cabine de la VAR. Les officiels ont de l'urticaire. Bon, pas grand-chose, juste un truc qui les dérange. Ça s'est passé au trou numéro 15, un par 5 sur lequel Tuten a fait birdie. Le tout en drivant le rough, en jouant un deuxième coup de replacement sur le fairway, approche de 110 mètres qui ne trouve pas le green, mais un putt de plus de 4 mètres qui fait un joli 4. Sauf qu'avant de jouer son approche, l'Américain, qui ne fait alors que profiter du règlement en vigueur lors du dernier tour, place sa balle sur le fairway. Le problème, c'est qu'en la replaçant, la balle roule alors de quelques centimètres en avant.
La salope. Oh la salope.
C'est à ce moment-là que Tuten a perdu sa carte sur le PGA Tour, car plutôt que de replacer sa balle le plus près de sa position initiale, ce gougnafier l'a replacée ailleurs, pas loin, hein, mais pas vraiment là où elle était. Et en vertu de la règle 14.2e, c'est deux coups de pénalité, donc 6 et non 4 sur le trou, et 76 total au lieu de 74, ce qui nous fait donc pas de PGA pour toi l'an prochain, frérot.
Bon.
Cette saison, j'ai joué le meilleur golf de toute ma carrière. Bon, sans gagner, c'est vrai, déclarera-t-il après la sanction. C'est vrai, poursuit-il qu'on joue pour gagner. Mais je suis déjà satisfait d'avoir joué régulièrement aussi bien tout au long de la saison, tente-t-il de nous faire croire. Alors pendant que Chad se fourre un bon doigt bien gras dans l'œil, c'est Rafael Campos, le portoricain, qui monte à sa place dans l'ascenseur en compagnie de Barjon et des 28 autres. C'est vraiment con quand même, Tuten, il était 29e du classement au début de la semaine. Chez moi, on appelle ça trébucher à 2 mètres du bol de sangria.
Merci beaucoup Simon Dutin de nous avoir conté cette histoire hallucinante, parce que ça arrive, j'imagine, dans beaucoup de tournois de prendre deux points de pénalité sur arbitrage. En revanche, d'être privé de PGA Tour pour cette raison, là c'est plus rare.
Vraiment pas la bonne semaine, oui.
Je voudrais avoir votre réaction, Martin Coulon.
Ah, c'est
injuste.
C'est injuste, ça fait partie des injusteries du golf au sens large du terme, mais que ça arrive sur ce genre de tournoi là, parce que le gars joue sa vie, enfin son métier de l'année prochaine, tu vois, c'est pas la même chose de rejouer sur le Korn Ferry et d'être sur le PGA Tour pour une balle que tu as très bien qualifié, enfin que ton son a très bien qualifié quand elle a roulé, qui t'enlève ça. Enfin,
le problème, c'est que derrière, il fait pas l'effort de la replacer. Ouais.
Ah oui, c'est ça qui est
impossible.
Entre nous, là, franchement.
Mais non, je suis pas d'accord. Mais non, c'est pas injuste.
Tu joues la balle.
Non, c'est pas injuste.
Là où elle se trouve.
Non, mais c'est qu'à un moment donné, le mec, il sait qu'il joue sa vie. Il sait que c'est quand même le tour. Vous verrez souvent les joueurs sur les différents circuits ne jamais décider eux-mêmes. C'est-à-dire, il y a un truc, on appelle l'arbitre, on touche à rien et on attend. À un moment donné, quand tu sais que c'est le tour de ta vie, que tu es en contention pour aller choper ta place dans les 30, tu veux que je te dise, moi j'appelle l'arbitre, on peut attendre une heure, mais c'est l'arbitre qui me dit exactement, il valide, je joue et je pars au suivant.
Je vois Médéric Coquer qui acquiesce. Oui, t'es d'accord.
Oui, clairement, c'est une faute. C'est juste incroyable.
C'est une faute de débutant.
Mais clairement, c'est un truc. Je suis d'accord avec Fabien. On se pose même pas de questions. C'est pas à moi de prendre la décision. J'appelle l'arbitre. Et si demain il y a une erreur, c'est la faute de l'arbitre et pas de la mienne. Donc clairement, c'est une faute que forcément c'est triste et tout ce qu'on veut. Mais on peut pas se permettre à ce niveau-là de faire des erreurs.
On peut préciser à nos aux auditeurs qu'en fait, selon les tournois, le règlement peut différer et que là, en ce dimanche de dernier tour, on était aligné sur le règlement du club en question qui permet de replacer la balle. Mais si la balle bouge, et ça, ce sont les règles du board, hein, du jeu, si ta balle bouge, tu as l'obligation, et ça paraît ahurissant de préciser ça, tu as l'obligation de la remettre le plus près possible de l'endroit d'où elle a bougé.
En fait, ce qui est
dingue, c'est qu'il n'ait pas fait l'effort de se demander où elle était, que son caddie lui ait pas dit « Attends, mec, elle était un peu plus par là ». Et que les arbitres s'en rendent compte à la vidéo, c'est qu'il y a quand même une différence entre l'endroit où il l'a replacé et l'endroit où elle est partie.
Est-ce que le nom de Roberto De Vincenzo, ça vous parle ?
Tellement.
Alors, Roberto De Vincenzo, c'est un joueur argentin, si je ne dis pas de bêtises, qui avait gagné le Masters, en gros. Voilà, on la joue courte. Il avait gagné le Masters, sauf qu'il s'est gouré en signant sa carte. Et que donc, il n'a pas gagné le Masters, quoi. Donc, il a signé un mauvais score, il s'est gouré. Voilà, il a mis un cap au 6 ou l'inverse. Disqualifié, bye-bye.
Ça doit être catastrophique.
Tu gagnes le Masters.
Oui, mais incroyable, j'ai gagné le Masters.
La performance.
Yann Ouzenam qui était en tête de l'Open britannique, qui découvre au bout de 3-4 trous qu'il a deux drivers dans le sac et qu'il a 15 clubs. Il regarde son caddie, tous les deux se regardent en mode, il jette le club et il perd le tournoi. T'as un milliard de trucs comme ça. Ou c'est des petites fautes d'inattention.
Ok, c'est le jeu, c'est ce que vous me dites.
Et l'airshot d'Alerwin, pareil, c'est beaucoup plus vieux. À Tombury, où il fait un super putt, il arrive et hop, il fait un airshot, mais à 3 mm du trou, quoi. Enfin, il y a plein d'histoires comme ça où tu te dis, mais les gars, regardez, quoi.
Ok, ça choque personne.
toi, t'es l'air un peu
chiclé. Il y a les règles.
Je comprends. Alors, moi, je comprends que ça ne te choque pas.
On peut être un peu parfois coulant là-dessus.
Mais tu peux pas être coulant.
Pas un professionnel.
Le mec, c'est pas un pimpin qui n'est pas connu.
Professionnel.
Le mec, c'est Tiger Woods. Ah, tu lui enlèves son master.
Mais bien sûr que tu lui enlèves.
Tu lui enlèves vraiment.
Bien sûr.
Tu me regardes droit dans les yeux, tu lui enlèves.
Je te regarde droit dans les yeux, tu lui enlèves direct.
Surtout, t'as envie de te dire que moi, je n'aurais jamais fait une bêtise.
Mais les règles, elles sont pareilles pour tout le monde.
Ouais, alors j'ai en tête aussi un master, s'il n'y a pas tant d'années que ça, où il y a un drop de Woods qui était un peu.
Moi aussi. C'est exactement là.
Mais validé. Non, mais encore une fois.
Sous les yeux de l'arbitre.
Validé par l'arbitre. Donc là, il n'y a même pas de débat. Quand tu vois ce qu'Aton. Patrick Reed, je sais pas pourquoi je suis dit Aton, Patrick Reed qui arrive à enfumer la terre entière, et y compris l'arbitre en disant « c'est ma balle parce qu'elle a un point » alors qu'en fait la balle elle est dans l'autre arbre. Voilà. Mais si l'arbitre dit « Monsieur Reed, je valide », il joue et on n'en parle plus.
Médéric.
Non mais ça fait partie de la performance. C'est pas juste taper la balle du green jusqu'au départ, du départ jusqu'au green, c'est mieux dans ce sens-là. ça fait clairement partie de la performance. C'est que ça soit ces règles-là, de signer la carte à la fin. C'est des joueurs de haut niveau, ce sont des professionnels. C'est des fautes qu'ils ne peuvent pas commettre.
J'entends et vous connaissez évidemment mieux ce sport que moi. Je trouve juste et on en terminera là sur ce débat. Comme ça, j'ai le mot de la fin. je trouve juste que ils ont tellement de choses à penser à leur performance, à leur façon de jouer, à leur manière d'être stratège, qu'un moment d'égarement sur une partie de 4h30, égarement, évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi, tu ne vas pas mettre la balle qui est là sur le green, tu ne vas pas l'avancer d'un mètre, évidemment, il y a du bon sens. Je trouve que bon, aller pinailler sur une balle qui a bougé d'un demi-millimètre, comme c'était arrivé d'ailleurs dans d'autres tournois, je trouve que...
Je ne suis pas d'accord avec toi, j'y sais, pardonne-moi.
Non, mais c'est toi qui as raison.
Parce que quand elle roule de 5 cm ou 10 cm, Imagine, il attaque le, comment dirais-je, le drapeau et que la balle, elle termine dans le trou. Ça veut dire que s'il avait replacé 10 cm plus, enfin, au bon endroit, elle ne serait jamais rentrée dans le trou. Donc, c'est du sport professionnel, okay, avec des règles professionnelles et qui, comment dirais-je, c'est normal. C'est normal. Et ils n'ont pas le droit de commettre ces erreurs-là.
Mais Derek,
et le cadet est là pour ça. Il fait partie aussi de la team du joueur pour permettre justement dans ces moments où la tête peut partir parce qu'il y a l'enjeu qui est là,
tu as raison.
De prendre le dessus, comme il va être capable de dire non, t'as pas le fer 6, faut mettre un fer 7 parce que t'as l'adrénaline, parce que habituellement à ces distances, ça fait partie du truc. Donc le cadet est fautif aussi clairement dans l'histoire.
Allez, à chaque épisode, on file au practice.
Le practice RMC.
Je vous conseille, cette visée à pas gaucher le drapeau aussi, c'est des bacs à sable devant.
Ou bien, ouais, c'est ça que j'ai. Voilà, elle part bien. Bien joué, super.
Le tips de Ramucho.
La leçon du jour avec notre prof Ramucho Artola. On accueille Eve. Salut Eve.
Bonjour Ramucho.
Bonjour Eve, ravi.
Bonjour Eve.
Ravi également.
Ravi que tu sois dans le practice RMC. Tu as une question pour Ramucho Artola. On t'écoute.
Oui, ma question elle concerne principalement les obstacles d'eau. Et je souhaiterais savoir s'il y a vraiment une technique ou une stratégie particulière à adopter face à ces obstacles.
Les obstacles d'eau, voilà, qui nous enquiquinent, ouais, qui nous c'est pourrissent vrai. La vie, qui nous pourrissent les
exactement.
Parties.
Exactement.
Je suis d'accord avec toi, c'est très beau. Mais
c'est très beau.
Mais bon, parfois, on n'a pas trop envie qu'il soit là. Vas-y, dis-nous un bout.
Alors, Eve, l'option que tu en as plusieurs, hein, mais l'option que tu vas choisir va dépendre de trois choses : de ton niveau de jeu, sans vouloir t'offenser, évidemment, de la distance qu'il te reste pour le franchir. Et enfin, de ton degré de confiance et de ta forme du moment. Alors, il y a trois options, donc, comme j'ai dit. L'option prudence. Disons qu'il te reste un coup de 100-120 mètres, tu vois. Tu vas chercher à contourner, du coup, l'obstacle en t'alignant sur le côté le plus sécurisant, ou bien le côté droit, ou bien le côté gauche. D'accord ?
C'est ce qu'on fait en compétition.
Du green. Voilà. Mais en aucun cas, sur cette option, tu ne cherches à retomber directement sur le green, mais sur une zone de sécurité avant tout, et du coup te permettre ainsi de conclure le trou sereinement, malgré cet obstacle d'eau qui t'enquiquinait. Donc ça, c'est l'option prudence. T'es un peu plus conquérante. C'est l'option sécurité. C'est pas très loin, mais c'est un peu plus agressif. Donc tu joues cette fois-ci, non pas les à côté du green, mais directement le green. Mais attention, soit le côté gauche encore une fois, soit le côté droit, ou bien, pourquoi pas, le fond du green. Donc, tu sécurises malgré tout hein, en visant une zone du green très éloignée.
Par exemple, pour être concret, tu peux jouer un club de plus. Admettons, il te reste 100 mètres. Moi, je prends un pitch. Je peux prendre un fer 9 pour être sûr vraiment qu'il ne soit pas en jeu.
Tu peux jouer le fond du green. Oui, si tu prends l'option de jouer le fond du green, absolument.
Ok.
Absolument.
Moi, c'est ce que je fais. Oui.
Ah ben, très bien. Donc, pareil, hein, ce sera la même chose. C'est les distances de 100-120 mètres. Voilà. Et enfin, l'option un peu plus offensive. Là, tu te trouves assez près d'obstacle. Donc, ce serait dommage de le contourner, tu vois, on va dire à 70, 60, 50 mètres, tu vois, sur un coup d'approche d'environ, voilà, 70 mètres. Ce n'est pas forcément parce que tu es prêt que ce sera le plus simple, hein, car l'eau est toute proche et plus que jamais bien présente sous tes yeux, Eve, hein, tu vois ce que je parle. Donc, le club que tu vas choisir, ce sera un sand wedge, un gap wedge, en tout cas, un petit club, un club ouvert. Et donc, tu vas privilégier deux choses très importantes, un contact solide, en plaçant ton poing un tout petit peu sur la jambe avant, sur la jambe gauche, t'es droitière.
Ouais.
Et puis surtout à chercher à produire une balle haute. Haute, car si je te le rappelle, hein, même si c'est une évidence, il n'y a pas d'obstacle vers le ciel. Donc tu vas avoir une balle qui va monter et tu vas prendre tes appuis vers le ciel. Voilà.
Ok. Eve, est-ce que ça te va ? Moi, j'ai une autre question pour toi, hein, si tu n'en as pas, Eve, et tu restes évidemment avec nous, avant d'écouter la bande et savoir s'ils ont leurs tips aussi sur ce genre de coups assez spéciaux. Là, tu as parlé de coups de 100-120 mètres. À la rigueur, moi, le problème que je peux avoir, c'est il va me rester, aller 160-170 mètres avec des fers, évidemment, ou des bois plus difficiles à jouer pour mon niveau, et j'imagine que c'est le cas de Eve. Dans ces cas-là, est-ce qu'il vaut mieux jouer un coup de pitch, un coup de neuf qui va nous rapprocher de l'obstacle parce qu'ensuite le coup sera plus facile ou...
Oui, mais on perd un coup.
C'est vrai.
Je pose la question avec Coulon, Donoyan et même, je m'inclus même dedans dans ce studio.
Ben oui.
T'as vu les tronches qui tirent, les mecs, quand tu poses la question.
Mais je sais, sauf qu'on fait pas le podcast uniquement pour eux. On fait aussi le podcast pour.
Tout le monde n'a pas
leur niveau.
Les auditeurs n'ont pas les images.
Je sais. Mais moi, je souscris à ce que tu viens de dire.
Est-ce que il faut jouer plutôt. On sera pas en régulation, c'est pas grave, mais au moins, on perd pas deux coups, on en perd qu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Fabien.
Oui, moi, bonjour, Eve.
Bonjour.
Quel est ton index?
Alors, je suis aujourd'hui 22 et j'étais 18.
Et tu joues depuis longtemps ?
Depuis 2014.
D'accord. Et tu as toujours eu un peu cette appréhension de l'obstacle d'eau ?
Ben, je l'ai toujours eu. Je l'ai moins peut-être maintenant. Je le vois parce qu'en fait, je joue avec des amis en partie amicale principalement. Et je vois même s'ils jouent bien. Eux aussi, ça leur arrive dès qu'ils sont devant un obstacle d'eau. Et effectivement, je rejoins la question qu'il vient de poser, c'est qu'en fait, c'est surtout quand on se retrouve à 160 mètres du green. Et c'est surtout en fait ces coups-là, en fait, où on se retrouve, dedans.
Alors, si je peux me permettre, si tu es à 160 mètres du green et donc tu aurais dans l'absolu 140 mètres à voler. Il vaut mieux prendre l'option que donnait JC, c'est-à-dire...
Pour le niveau que l'on dit, hein, entre 15 et 25.
Ouais. Maintenant, quand on est 18 d'index ou à 18, 20, 22, on a le club dans le sac pour attaquer un green avec de l'eau à 120 mètres, même une petite rivière ou quelque chose de plus grand. Mais de toute façon, j'ai envie de dire que... peut le plus, peut le moins, et il faut y aller, quoi. Alors, peut-être qu'on perd des balles, mais aujourd'hui, il y a des clubs, peut-être qu'il faut que tu révises tes clubs et que tu ailles, faire un fitting qui te permet de voir peut-être que la balle, tu la talonnes ou tu la mets dans la pointe, peut-être que tu la prends un peu trop dans le club, qu'elle a du mal à voler, que ça manque un petit peu de vitesse. Donc, moi, j'ai plutôt envie de t'encourager à aller faire un fitting ou prendre une leçon, je ne sais pas si tu en prends, mais aujourd'hui, avec un radar, pour clairement identifier ce qui ne te permet pas de faire flyer la balle sur cette distance.
Mais ce qui permettra de se rassurer aussi quand tu arrives à un obstacle en disant « ça, de toute façon, je le passe, quoi qu'il arrive, rapidement ». Martin, tu voulais...
Oui, je suis très étonné que Ramucho t'ait pas parlé de la quatrième option, qui est quand même une option de base, c'est les ricochets, les gars. Les ricochets, c'est la base du golf. Non, enfin moi, Eve, je suis désolé. Déjà, bravo pour ce très joli prénom qui me permet de faire un gros bisou à ma fille qui s'appelle Eve aussi. Mais les ricochets, non, c'est hyper cool, c'est spectaculaire. Voilà.
Tout le monde n'est pas Yann Ram. Hein.
Bah si.
Je me souviens de son coup au Masters.
Essayez les ricochets, c'est vachement cool en plus.
Alors moi souvent j'en fais, mais ça s'arrête à deux et après plouf, je revois plus la balle. Merci beaucoup Eve d'avoir été avec nous et bon golf.
Salut,
et en tout cas Fabien te le dit, c'est pas mal toujours d'aller faire une petite leçon pour être plus en confiance tout simplement sur un parcours. Justement, et c'est votre dernière chance, un cadeau exceptionnel à vous offrir à chaque épisode de ce Practice RMC 2023. Pour débuter le golf, ça s'adresse à tous ceux qui veulent s'y mettre. Vous avez bien raison. Vous pouvez remporter un pack All For You avec Blue Green et U-Golf qui comprend un an d'enseignement avec des cours illimités, un an d'accès illimité sur un certain nombre de parcours, le matériel fourni durant cette année de golf, valeur du pack All For You, plus de 1000 euros. C'est la dernière chance, c'est le dernier épisode cette saison. Vous envoyez Golf au 732-16. Golf au 732-16. Le vainqueur sera tiré au sort. Alors notre invité, j'en viens à la surprise. C'est donc Médéric Coquer, responsable marketing des produits chez Callaway. Eh bien sachez, chers auditeurs, je suis très heureux de vous annoncer que le Practice RMC va encore grandir avec un nouveau partenaire qui rejoint l'aventure. Il s'agit évidemment de Callaway, équipementier mondialement connu des golfeurs. Grâce à ce nouveau partenariat, le Practice sera encore plus présent sur RMC. Nous serons là. Écoutez-moi bien, toutes les semaines en 2024, une fois par semaine, il y aura le Practice RMC à compter de février prochain. Médéric, sois donc le bienvenu chez toi. Très heureux de t'accueillir dans ton podcast à partir aussi de la saison prochaine. Pourquoi avoir décidé de rejoindre, j'ai envie de dire, cette merveilleuse aventure, mais soyons moins pompeux, cette aventure?
Je ne connaissais pas du tout. Aujourd'hui, c'est ma première, donc en tout cas, je suis ravi qu'on puisse s'associer à ce super émission, ce super podcast. En fait, c'est quelque chose qu'on connaît aux US. En Europe, non, mais aux US, oui, on a déjà un podcast en interne qui fonctionne super bien. Aujourd'hui, ça va clairement avec cette nouvelle manière de consommer le golf, parce que c'est clairement ça. Moi qui passe beaucoup de temps dans ma voiture...
un peu trop parfois, mais beaucoup de temps dans les transports. C'est juste le format parfait. Moi, l'émission et les personnes qui participent, je trouve ça génial. Ça change vraiment de ce qu'on voit. Et puis, ça va avec notre société aujourd'hui. On est dans cette Callaway qui aujourd'hui a 5, 6, 7 marques différentes. On est vraiment dans cette vision de modern golf. Parce qu'on intègre Top Golf, on intègre Top Tracer, donc c'est vraiment aussi d'aller vers des nouveaux golfeurs, des personnes qui venaient pas au golf pour une raison simple, c'est pas moi, c'est pas mon image, c'est trop compliqué, j'ai pas envie de mettre un polo et de passer 4 heures le week-end là-bas, et qui ont envie d'avoir un truc vraiment cool entre copains, boire un coup, manger un burger et de voir la balle voler, et c'est clairement ça qu'on cherche, et je trouve que ce que vous véhiculez ici l'année prochaine, toutes les semaines, correspond clairement à l'image dans laquelle on veut nous aller, et c'est le golf de demain. Donc voilà, prendre les choses avec un peu plus de un côté un peu plus cool, un peu plus sympa, plus fun, se faire plaisir. Ça ne veut pas dire qu'on peut encore jouer de très beaux parcours et des très beaux parcours mythiques où il faudra toujours faire attention, mais vraiment voilà, n'importe quelle personne demain mettre au golf, se faire plaisir.
C'est la deuxième saison où l'on est là dans le Practice RMC, et pour nous, ça a toujours été, avec Simon, notre leitmotiv. On a toujours eu envie de dire aux auditeurs, à ceux qui nous écoutent, mettez-vous au golf. Moi, j'ai un regret à vie, c'est qu'à 5 ans, on ne m'ait pas mis un club dans les mains. Et j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui pourraient peut-être, tu parlais d'image, d'appréhension, de... Allez tester parce que c'est un sport exceptionnel. Vous allez vous laver la tête de tout notre tracas du quotidien. Vous allez prendre du plaisir, vous allez être dans de beaux endroits, vous allez vous balader, vous allez être dans la nature. Tout ça fait que c'est un sport exceptionnel et on a toujours eu envie de le partager sur RMC et de l'amener aussi dans le ton RMC. On a envie de débattre, et depuis que l'on fait cette émission, on débat sur le golf avec passion. On a envie que ça devienne un classico de la Ligue 1, on a envie de se mettre dessus sur un PSGOM, on a envie de parler de golf comme ça aussi, pour casser un peu cette image du golf qui serait peut-être là aussi, pour le coup, en l'occurrence, trop pompeuse. Et c'est pour ça qu'on fait ce podcast, et c'est aussi pour ça qu'on est très heureux d'être associé désormais à Callaway et de pouvoir, la saison prochaine, vous offrir beaucoup plus de numéros. J'ai l'impression qu'il y avait quelques réactions.
Oui, et rapidement, c'est marrant, ça m'a fait penser, parce que tous les deux, avec JC, on a travaillé... dans une grande maison qui s'appelle L'Équipe il y a des années, et on ne se connaissait pas. Et moi, j'étais déjà au journal du golf à l'époque.
Je crois qu'il n'aimait pas, en revanche.
je sais, il me regardait bizarrement à la cantine. Il disait, oh, les mecs du golf, là, c'est tous des... Ouais. En fait, je suis un peu d'accord avec toi. C'est dommage qu'on soit toujours, nous, les golfeurs, au sens large du terme. Moi, ça fait des années, j'ai eu la chance de commencer le golf assez tôt. Parce que ça me plaisait, moi, il n'y avait personne dans ma famille qui jouait, je ne veux pas raconter ma vie, on s'en fout, mais tout ça pour dire que moi, c'est le golf au sens pur du terme, c'est le sport qui m'a toujours attiré là-dedans. Et je trouve que c'est dommage et c'est important qu'on fasse ce genre d'émission et que Callaway et tous les autres partenaires nous rejoignent pour prêcher de cette parole-là, c'est de dire que ce sport-là, c'est pas un sport prout-prout. Si tu as envie de le prendre comme un sport prout-prout, c'est ton problème. Moi, c'est pas comme ça que je le vois, et ça fait plus de 30 ans que je le vois pas comme ça. J'ai emmené tous mes potes, ils adorent ça, on rigole, on se marre, on boit des coups, mais ça n'empêche qu'on peut aussi jouer très sérieusement comme ça. Donc c'est ça qu'on a envie de véhiculer, je crois, dans ce podcast, et qu'on véhicule, en tout cas moi, ça fait une saison seulement que je la fais avec vous, et je suis hyper content de continuer l'année prochaine. C'est ça qu'on a envie de véhiculer. Donc c'est cool qu'il y ait des grandes marques comme Callaway et des grandes marques comme YouGolf Blue Green qui véhiculent ça et qui s'associent avec cet esprit-là.
Très rapidement, les copains.
Ouais, rapidement, moi, j'ai eu la chance, à la différence de toi, effectivement, qu'on me mette faire cette raccourci dans les mains quand j'avais 6 ans, et je remercierai jamais assez mon père. Mais pour revenir sur... je trouve que le golf, c'est peut-être le sport qui est actuellement et le plus en mutation parmi tous les sports, et que ce soit en termes de sociologie qu'on observe dans les golfs, mais effectivement en termes d'habitude et de la façon dont on le pratique. Moi, j'ai arrêté le golf après l'école de golf parce que justement... je ne trouvais pas ça assez cool. Je voulais jouer au foot. Ce n'était pas assez branché de jouer au golf. J'en avais marre de me faire engueuler par les vieux parce que je portais ma casquette à l'envers, ou parce qu'au clubhouse, on me rattrapait en disant les petits, il faut ratisser les bunkers, parce que c'était forcément les jeunes. Il y avait cet esprit chiant. Et je trouve que, effectivement, et le partenariat avec Callaway en est une illustration, parce qu'on peut enfin en parler comme d'un vrai sport. Et je recommande à n'importe qui penserait que c'est encore chiant, d'aller se faire chambrer pendant 18 trous par Donoyan, et il verra que c'est tout sauf un sport chiant.
Je ne le recommande pas à tout le monde tout de même. Pour terminer le Practice RMC, on va se détendre un peu avec Paul Barjon.
Le Practice RMC Clubhouse.
Le Clubhouse avec notre invité. Question courte, réponse courte. Jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité?
Oui, monsieur.
C'est parti. Le meilleur score de ta vie?
59.
Sur un par combien?
Par 71.
C'est pas mal, moins 12. Ta distance au drive?
290 mètres.
Ton club préféré?
Fer 6. Je sais pas pourquoi, mais ça, c'est toujours un bon club.
Et tu fais combien au Fer 6?
À peu près 180 mètres.
Ça laisse rêveur pour tous ceux qui nous écoutent, évidemment. Ton club détesté?
Il n'y en a pas vraiment, et de temps en temps, le putter, c'est celui avec lequel je suis pas ami.
C'est marrant parce qu'on a eu beaucoup de joueurs professionnels qui, à chaque fois à cette question, nous disaient le putter. C'est dire s'il il peut faire des dégâts. Ton parcours préféré?
Pebble Beach.
Que tu as fait?
Oui, plusieurs fois.
Le parcours que tu rêves de faire maintenant?
Augusta National.
Normal, tout le monde nous répond ça. Le mec connu que tu ne bats jamais?
Rory.
Le mec connu que tu bats toujours?
J'en ai pas encore, mais en espérant faire des victimes l'année prochaine.
On te le souhaite, comme on dit. Ton plus gros craquage?
Pas réellement de gros craquage, juste des parties, des mauvaises parties. Il n'y a pas eu vraiment de craquage au 18 pour perdre le tournoi, tout ça. Donc on croise les doigts et on essaie de pas avoir de souvenirs comme ça.
Et pour terminer, le plus beau coup de ta vie?
Faire 7 au Mexique sur un par 5 pour un albatros.
Tu l'as vu rentrer?
Non.
C'est en arrivant sur le green?
Bah, il y avait un caméraman derrière le green, donc il a sauté de joie, donc j'ai cru comprendre à ce moment-là qu'elle était rentrée dedans. Ouais.
Merci beaucoup Paul Barjon d'avoir été avec nous dans le Practice RMC.
Pas de problème, merci de m'avoir reçu.
Nous allons retrouver Paul Barjon en 2024. À n'en pas douter, il faut avoir de grosses attentes autour de lui. J'ai bien compris, c'est pour résumer ce podcast. Médéric Coquer, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à toi, Gilles.
À l'année prochaine. Ravi. Simon, Fabien, Ramoucho, Martin, merci infiniment pour cette saison 2023.
Merci à toi, Gilles. Merci à tout le monde.
Il y a un best-of pour Noël, non? Et sur la chanson, non?
C'est possible. Les plus belles punchlines. En tout cas, on va vite se retrouver pour attaquer cette nouvelle saison plein de mordants pour la saison 3 donc du Practice RMC. Merci Blue Green et U-Golf. Bon golf à tous. Rendez-vous 2024 donc, et comme dirait Al Linden, apprendre à jouer au golf, c'est comme apprendre le violon. Ce n'est pas seulement difficile, c'est aussi très désagréable pour votre entourage.
Le Practice RMC.